autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous demander, 170 ans après l'abolition de l'esclavage, comment retracer cette tragédie à hauteur d'homme et sur le temps long? Comment retracer les différentes routes des esclaves, les différentes traites? Pourquoi et comment ce trafic d'êtres humains a-t-il pris une telle ampleur à partir du 7e siècle? Et pendant plus de 1000 ans, comment l'Afrique en fut-elle l'épicentre? Plus de 20 millions d'Africains déportés, vendus et réduits en esclavage. Comment ce système criminel a-t-il façonné notre monde, notre économie et toute notre histoire? Quelles traces subsistent aujourd'hui? Comment les exhumer sur tous les continents? Comment rendre visible l'invisible? Rendre sensible l'indicible? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités. André Delpuech, aujourd'hui directeur du Musée de l'Homme, pionnier et spécialiste de l'archéologie de l'esclavage, et l'historienne Catherine Kokrividrovitch, auteur des Routes de l'esclavage, un livre et une série documentaire essentielle. Nous serons également en ligne à la Martinique avec l'archéologue Thomas Romain, qui fouille les cimetières d'esclaves, autour de la question: pourquoi faire l'archéologie de l'esclavage? Comment retracer les routes des esclaves? Bande annonce de cette excellente série documentaire diffusée en 4 épisodes sur Arte et Franceau à partir du 1er mai.
C'est l'histoire d'un monde où l'esclavage a dessiné ses territoires et ses propres frontières. Un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leurs routes. L'esclavage n'a pas commencé dans les champs de coton. C'est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l'aube de l'humanité. À partir du 7e siècle et pendant plus de 1000 ans, l'Afrique fut l'épicentre d'un trafic global.
Mes parents ont été maltraités par ceux qui ont le teint clair.
Nubiens, Peuls, Mandingues, Songhai, Soso, Akan, Yoruba, Ibo, Congo, Yao, Somalie, plus de 20 millions d'Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel a façonné notre monde et notre histoire. L'ampleur de ce trafic est telle qu'il a longtemps été impossible d'en expliquer les mécanismes. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons remonter les routes de l'esclavage.
Bonjour Catherine Kokrividrovitch.
Bonjour.
Bonjour. Excusez-moi, je m'en étouffe. Bonjour André Delpuech.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour remonter justement ces routes de l'esclavage. Catherine Kokrividrovitch, vous êtes historienne, spécialiste de l'Afrique, professeure émérite à l'Université Paris Diderot, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les villes et les femmes du continent. Vous êtes la conseillère scientifique historique de cette excellente série documentaire Les routes de l'esclavage. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage que vous venez de publier aux éditions Albin Michel, qui s'intitule également Les routes de l'esclavage. Pourquoi aujourd'hui est-il justement à la fois possible et fondamental de remonter ces routes des esclaves? Est-ce que notre regard a changé? Est-ce que nos techniques pour retracer cette tragédie ont changé aussi pour la retracer à hauteur d'hommes, à hauteur d'esclaves, Catherine Kokrividrovitch?
Je dirais que c'était possible avant, les sources existaient, il suffisait de vouloir écrire cette histoire. Et cette histoire a été tue par, disons, tous les partenaires, pour des raisons différentes. Mais, les descendants des esclavagistes n'avaient pas envie de le rappeler. On fêtait la suppression de l'esclavage en France en 1848, échelle chère, mais on ne racontait pas ce qui s'était passé avant, où la France était faisait une colonisation esclavagiste, comme beaucoup d'autres. On ne voulait pas le reconnaître aussi en Afrique, où il y avait des partenaires, et donc c'était très difficile. Et on ne voulait pas non plus le reconnaître dans les Caraïbes ou au Brésil. Et tout s'est, je dirais, débloqué un peu en même temps, ce qui est très intéressant. Il y a eu la loi Taubira en 2001, qui a été très fondamentale. Il y a eu, la même année 2001, au Congrès international des historiens africains à Bamako, un historien africain, Ibrahim Atioub, qui a lancé la question, au scandale des autres d'ailleurs, puisque ça ne se faisait pas. Et il y a eu une loi tout à fait équivalente à la loi Taubira au Brésil en 2003. C'est-à-dire un démarrage finalement mondial d'un phénomène mondial.
De reconnaître, de reconnaissance.
De reconnaître et par conséquent qu'il fallait l'étudier. Parce que jusqu'à présent, comme ça n'intéressait personne, ou que c'était tu, personne n'avait travaillé sur la question en fait.
Alors pour travailler justement sur cette question, sur le temps long et à hauteur d'homme, l'archéologie de l'esclavage colonial dont vous êtes, André Delpuech, un pionnier, est évidemment très très importante. Alors vous êtes aujourd'hui, André Delpuech, directeur du Musée de l'Homme, vous avez été responsable des collections des Amériques au Musée du Quai Branly. Vous aviez d'ailleurs initié en 2012 le premier colloque international sur l'archéologie de l'esclavage. Vous êtes d'accord avec l'analyse de notre invitée Catherine Kokri-Vidrovitch, un nouveau champ de recherche aujourd'hui, une possibilité, ça intéresse tout le monde depuis les années 2000-2012, et l'archéologie de l'esclavage apporte ses propres outils.
Effectivement, les choses s'ouvrent, il y a une bascule, effectivement, c'est deux ou trois dernières décennies, j'observe, en tout cas à mon niveau, comme on vient de le signaler, où ce sujet était un peu tabou pour toutes les raisons évoquées, pour d'autres encore sans doute, et on voit dans les différents champs, le champ historique, on pourrait parler aussi du champ muséal. C'est aussi intéressant d'observer qu'un certain nombre de musées commencent à se consacrer à ce sujet. Hein. Voyons l'ouverture très récente à Washington du musée de l'histoire afro-américaine ou le musée autour de l'esclavage de Liverpool au Royaume-Uni ou la création récente du Memorial Act en Guadeloupe, par exemple. Et pour les autres domaines, parce que souvent le problème, c'est un problème plus global qui va au-delà de l'histoire de l'esclavage, c'est que quand on parle d'histoire, pendant longtemps, on a résumé l'histoire au texte fournis par les sources, les chroniques, les archives. Et l'archéologie, souvent, en tout cas pour les périodes récentes, était considérée comme une vague auxiliaire de l'histoire, voire même n'existait pas. Et c'était le cas pour l'archéologie de l'esclavage. Pendant longtemps, personne ne voyait l'intérêt, ni n'avait même pensé à faire de l'archéologie de l'esclavage, ni même de l'archéologie tout simplement de l'époque coloniale. De la même façon qu'en France, on ne faisait pas, à une certaine époque, de l'archéologie du Moyen-Âge ou de l'époque moderne. Il faut le remettre dans ce contexte-là. Parce qu'on considérait que les textes étaient suffisants pour connaître...
Ces textes, non seulement ils ne sont pas suffisants, mais souvent ils émanent plutôt des vainqueurs que des vaincus, et plutôt des dominants que des dominés quand même.
Alors absolument, et c'est exactement en particulier pour l'histoire de l'esclavage, c'est que les sources, pour la majorité, notre collègue historienne pourra le compléter mieux que moi, viennent souvent du pouvoir dominant. Des blancs, des occidentaux. Et donc les esclaves eux-mêmes n'ont eu peu de voix au chapitre de l'écrit, si je puis dire. Et donc l'apport, en tout cas, ça a été une des démarches qu'on a initiées dans les années 90 quand je me suis trouvé nommé responsable de l'archéologie en Guadeloupe, le service venant d'être créé, de la même façon dans les autres départements français d'Amérique, et puis au-delà dans l'espace caribéen américain en général. Cette archéologie de l'époque coloniale a émergé relativement récemment et on a pu voir, on pourra en parler, comment elle a ouvert de nouveaux champs et de nouvelles perspectives pour comprendre certains aspects qui étaient finalement relativement tus par les textes.
On va en parler bien sûr également avec un autre archéologue qui va nous rejoindre par téléphone depuis la Martinique et qui fouille justement les cimetières d'esclaves. Autour de la question comment remonter les routes de l'esclavage, on va essayer vraiment de remonter sur le temps long, sur toutes les routes des esclaves. Je sais que vous tenez à la différence de termes, Catherine Kokri-Vidrovitch. Première question tout de suite qui remonte justement le temps, elle est soulevée par la préhistorienne Marilène Patoumatis qui était récemment notre invitée.
Comment vos invités imaginent-ils l'apparition donc de l'esclavage ? À quel moment de l'histoire de l'humanité apparaît l'esclavage ? Ça serait vraiment important de le savoir, puisqu'on a déjà des niveaux archéologiques qui montrent peut-être dès le néolithique qu'il y a des sépultures où il y a des maîtres et des esclaves. À leur avis, c'est à ce moment-là. Et pourquoi surtout ? Qu'est-ce qui d'un seul coup fait qu'il y a des esclaves ?
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de répondre à cette énorme question, alors, André Delpuech ?
Oui, c'est un sujet, parce que c'est là, sans rentrer trop dans les détails, sur les avantages de l'archéologie et ses limites. C'est-à-dire qu'on trouve, prenons l'exemple de restes humains, puisque c'est comme ça d'ailleurs qu'est née l'archéologie de l'esclavage, en tout cas dans les Antilles, c'est par la fouille des éléments les plus spectaculaires qui sont ces cimetières d'esclaves dont on parlera. On peut observer un squelette, on peut en déterminer l'origine, si par exemple c'est quelqu'un d'origine africaine ou autre, on peut en déterminer l'âge, mais de là à déterminer son statut social, c'est une vraie question. Alors néanmoins, dans un certain nombre de contextes, quand on trouve des populations africaines essentiellement dans un cimetière du nord de la la grande terre de Guadeloupe où au XVIIIe siècle, de toute façon, 95% de la population, voire plus, était esclave. Il y a toutes les chances que ces gens-là aient été des esclaves.
Voilà.
Mais
quand on remonte plus loin,
l'archéologie a ses limites. Et donc, pour le passé, c'est pas parce qu'on trouve un individu de rang prestigieux, entouré de personnes qui ont pu être, pourquoi pas d'ailleurs, sacrifiées autour de lui ou autre, de déterminer leur statut. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut rester extrêmement prudent. Donc, l'origine de l'esclave, par des preuves archéologiques, reste largement conjoncturelle.
Catherine Kokrividrovitch.
Je suis de plus en plus convaincue que l'esclavage a été une forme d'utilisation du travail extrêmement ancienne. Alors, savoir si c'était dès la préhistoire, si c'est l'homo sapiens qui l'a inventé ou ça, d'avant, si c'est l'homo sapiens, c'est pas à son honneur. Mais le fait de ne pas avoir d'autres outils que l'être humain pour travailler, c'est très ancien. Et donc, on prenait les outils, mais c'était, même avant que le mot esclave n'existe, c'était des êtres dominés qui devaient travailler complètement pour les autres. Alors, dans quelle mesure c'était vraiment un esclave, tout est une question de...
Et vous avez parlé de ce mot esclave, rappelez-nous son étymologie, qui en dit très long.
Alors, l'étymologie du mot esclave, elle est récente relativement, on l'attribue aux esclaves de Slavonie, du Slave. Je crois que ça remonte quelque chose au 3e siècle de notre ère, les premières traces.
Esclave vient de Slave parce que les premiers esclaves n'étaient pas africains, étaient slaves.
Parce que du côté de l'Europe et de l'Eurasie, c'est plutôt des gens du Nord, c'était des gens qui n'avaient pas la culture des dominants. Donc, chez les Grecs, c'était les non-Grecs. Chez les musulmans, plus tard, ça a été les non-musulmans. C'est une question de culture. La culture n'a pas de couleur. Et la plupart des esclaves dans le monde eurasiatique venaient justement du nord, je dirais pas de Sibérie, mais enfin, peut-être de ces régions de Slavonie. Et d'où le nom d'esclave. Mais ça ne veut pas dire évidemment que le mot existait en latin, mais c'était pas le mot le plus usuel justement. Et puis il y avait beaucoup d'esclaves à Rome, bien entendu, mais il y a beaucoup d'esclaves dans les textes des trois religions monothéistes, dans la Bible. C'est-à-dire que les esclaves existent pour les religions juives, chrétiennes et musulmanes.
Donc il y a eu des esclaves depuis très très longtemps. En même temps, dans ces routes de l'esclavage, dans ce documentaire, de même que dans votre livre, on distingue quand même quatre grandes périodes. Au tout début, un point de départ de ce qui va devenir ensuite la traite transatlantique que l'on connaît. Un des points de départ, ce serait quoi? Ça serait au Caire? Ça serait dans le désert? C'est ça, Catherine Kokrividrovitch?
C'est très difficile de dire quel est le point de départ. Je crois que, effectivement, en tous les cas, pour ce qui concerne l'esclavage et les esclaves africains subsahariens, qui est l'objet du documentaire et de l'ouvrage que j'ai écrit, ce que les Européens, en tous les cas, ont commencé à aller chercher à partir du XVe siècle, les Portugais, ça n'est pas les esclaves. Ils en avaient déjà par ailleurs. Ils en avaient moins parce que précisément le monde musulman commençait à s'emparer de Constantinople, etc. Donc la route de l'Est commençait à être fermée. Donc il fallait bien en trouver d'autres. Mais ce que cherchaient les Portugais, c'était l'or, l'origine de l'or. Et qu'est-ce qui est arrivé d'abord, l'or ou les esclaves? En tous les cas, Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire bien avant les Portugais, parle déjà de l'échange avec les Puniques qui étaient en Afrique du Nord, et les gens du Sud qui sont mal situés parce qu'ils racontent par des ondits, il n'y est pas allé bien sûr,
mais il y a déjà trace chez
Hérodote. Avant notre ère, il parle de l'échange entre l'or et le sel du désert, l'or africain et le sel du désert.
Alors pourquoi et comment ensuite, hein, à partir du 7e siècle d'abord, puis surtout à partir du 15e siècle, l'Afrique est devenue l'épicentre de ce trafic? On s'interroge en écoutant Railema et les Gnawa sur RFI, quand le compositeur congolais rencontre la transe et des Gnawa, sacrés descendants d'esclaves au Maroc. Yeah. Sur RFI, autour de la question comment retracer les routes de l'esclavage, en compagnie du directeur du Musée de l'Homme, André Delpuech, spécialiste de l'archéologie de l'esclavage, et de l'historienne Catherine Kokri-Vidrovitch, auteur des Routes de l'esclavage, un ouvrage et une série documentaire en 4 épisodes. Je vous propose l'éclairage tout de suite des historiens marocains Chouki El Amel et Elikiam Bokolo, extrait de cette série documentaire.
Tout au long de l'histoire du commerce transsaharien, entre le nord et le sud, il y a eu des esclaves. Et l'or a toujours été recherché. Un phénomène nourrissait l'autre.
Mais le travail de l'or dans les sociétés africaines est un travail très largement entre les mains des captifs. Donc ça va ensemble. Et je crois que si l'un, l'or, a précédé l'autre, les esclaves, la chronologie n'est pas clairement établie. On pense que les deux sont entrés dans le réseau d'échange pratiquement au même moment.
De l'or ou des esclaves, de l'œuf ou de la poule, Catherine Kokri-Vidrovitch, voulez-vous réagir à cet éclairage d'Elikiam Bokolo?
Oui, les Portugais se sont livrés très tôt à une espèce de petites razzias le long des côtes. Ils ont très vite compris qu'en réalité, ils avaient plus davantage intérêt à négocier avec les chefs côtiers qu'ils pouvaient rencontrer qu'à faire du pillage, parce que il fallait organiser un commerce de plus longue durée. Et ils ont rencontré sur la côte mauritanienne, dès le milieu du 15e siècle, des gens du Mali, de l'ancien empire du Mali, qui était un grand royaume à la fois de l'or et aussi des esclaves, qui leur ont promis de leur apporter des esclaves et surtout de l'or, dont tout se tenait effectivement. Et tout le long de la côte, tout le long du 15e siècle, les Portugais ont essayé de traiter, de négocier avec les gens des côtes qui l'acceptaient, parce qu'il y en avait qui le refusaient. Et ça a duré de façon très intense pendant un siècle, tout le siècle où les Amériques n'étaient pas encore connues des Européens, puisque le Brésil a été connu qu'en 1500.
Oui. Et à qui profitait à l'époque ce commerce or-esclave?
Ce commerce, tous les partenaires pensaient qu'il leur profitait. Alors évidemment, ceux qui gagnaient le plus, c'étaient les Portugais et puis les Hollandais, qui sont devenus des concurrents assez rapidement au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Et puis, il y avait ces émigrés du Portugal et de la péninsule ibérique qui ont été chassés en particulier par les rois très catholiques et par l'Inquisition. Il s'agissait soit de musulmans, soit de juifs, dont la plupart étaient de très pauvres gens qui sont allés peupler à la fin du XVe et au XVIe siècle l'Afrique du Nord, mais dont quelques-uns étaient des hommes d'affaires. Et ils se sont retrouvés avec des Portugais portugais non juif, portugais bien catholique, disons, de l'époque, à probablement, à eux tous, une vingtaine, une trentaine, dans les îles du Cap-Vert, en face de la Sénégambie. Et ils ont commencé vraiment un trafic, là, d'esclaves.
Donc c'est vraiment progressif, on voit bien que ça profite à tout le monde, on voit bien que c'est une histoire très complexe, qu'il y a eu des traites d'esclaves différentes avant de se cristalliser. On parlait de l'origine ou du début de l'esclavage. André Delpech, vous qui êtes plutôt spécialiste des Amériques, avant la traite transatlantique, il y a eu, on pourrait dire, une autre forme d'esclavage?
Oui, dès l'arrivée des Européens dans l'espace caribéen, Christophe Colomb et ses successeurs, donc dès la fin du 15e siècle, le début du 16e, on va commencer par réduire en esclavage les populations autochtones, les populations amérindiennes. Donc dès que, passé les voyages de découverte un peu, qui sont une sorte de rencontre plus ou moins pacifique, après l'emprise coloniale se met en place, et la recherche de l'or, la recherche de profit, la recherche des perles, hein, on pourrait citer l'exemple justement des perles de coquillières de la côte du Venezuela actuelle.
Donc c'était l'or en Afrique et les perles du côté...
Alors il y avait aussi l'or américain, mais ouais. L'or américain, il va véritablement rentrer sur la scène européenne avec la découverte du Mexique, puis du Pérou. Mais néanmoins, dans les Antilles, dès le début, les Espagnols vont réduire en esclavage les Taïnos ou les Caraïbes, hein, pour parler simplement, même si la situation amérindienne est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'observer, il va y avoir une espèce d'antinomie, d'un côté avec aussi les rois catholiques qu'on évoquait, qui vont dire ces braves amérindiens, un peu le prototype du bon sauvage, il faut les christianiser. Par contre, certains qui étaient considérés comme des cannibales, sodomites, idolâtres, irrécupérables...
Cela, faut les esclavagiser.
Voilà, on pouvait les réduire en esclavage. Et donc, très très vite, on voit déjà la nuance ethnographique, hein, donc c'était facile de déclarer des populations cannibales, et on les réduisait en esclavage pour aller travailler dans les mines d'or à Hispaniola, donc l'actuel Haïti-Saint-Domingue, ou par exemple, un exemple assez connu, c'est dans les Bahamas, vivaient tout un tas de populations amérindiennes qui étaient des grands plongeurs, ils vivaient dans les îles, et ils ont été déportés massivement à tel point que les Bahamas n'avaient plus aucun habitant pour être esclavagisés, si je puis dire, sur les côtes du Venezuela pour justement faire la pêche des perles coquillères. Donc, alors, cela dit, ces esclaves très vite ont été anéantis, détruits par les maladies, et c'est là qu'on a commencé à les remplacer par l'esclavage africain.
On a eu besoin d'autres main-d'œuvre et d'autres chairs fraîches, de l'or et des perles jusqu'au sucre, et puis ensuite du sucre à la révolte. Mais je propose d'écouter Catherine Corrigue-Vidruch, on y reviendra ensuite, un petit extrait du troisième épisode des routes de l'esclavage.
Sur l'île de São Tomé, les Portugais ont inventé un modèle économique à la rentabilité inégalée, la plantation sucrière.
Pour la première fois, on peut parler d'une colonie noire et une société esclavagiste.
On va assister au mariage de l'homme noir et la canne à sucre.
16e siècle. Toute l'Europe cherche maintenant à les imiter. Une quête de profit qui va plonger tout un continent dans le chaos et la violence. Près de 13 millions d'Africains sont jetés sur les routes de l'esclavage vers le Nouveau Monde, où Anglais, Français, Espagnols et Hollandais espèrent devenir riches, immensément riches.
Le sucre, Catherine Kokrividrovitch, la canne à sucre, c'est ça qui a fait basculer dans la traite intensive, dans le commerce triangulaire
Probablement, oui. Le sucre est quelque chose de... La culture de la canne à sucre est quelque chose d'excessivement important dans l'esclavage. Il y a l'expression a été utilisée d'un mariage entre le sucre et l'esclave pour l'Atlantique. Le sucre est découvert... Enfin, les sucres existaient... Et ça vient de l'Inde, il y avait des plantations en Égypte, mais le sucre était un produit de très très grand luxe en Occident. Ce sont les Portugais qui l'apportaient un petit peu. Et ce sont les Portugais qui ont finalement eu l'idée d'implanter la canne à sucre au fond du golfe du Bénin, donc sur l'Atlantique, dans un climat équatorial très favorable, une île supposée déserte, qu'ils ont peuplée d'esclaves. Venant d'Afrique, et installer des planteurs, soit portugais, soit beaucoup de métis, parce que c'était un climat que les Portugais supportaient mal, et à la deuxième génération, les Portugais avaient déjà acheté des femmes esclaves, et à la troisième génération, tout le monde se disait portugais, parce qu'ils parlaient portugais, mais on ne savait plus du tout quelle couleur ils étaient, et ce n'était pas important à l'époque, c'est devenu très important au XVIIe siècle, mais pas au démarrage. Ce qui était important, c'était de faire le commerce, et que que ça marche et que ça rapporte. Et la plantation de canne à sucre, telle qu'elle a existé ensuite au Brésil et puis dans les Caraïbes, elle a été véritablement mise en place, inventée dans l'île de Saint-Thomé. Elle n'a pas duré très très longtemps parce que il y a eu aussi les marrons, les esclaves fugitifs, qui se sont organisés, évidemment, qui se sont révoltés et qui ont saccagé l'île, si bien que les planteurs ont démonté leurs moulins et les ont apportés au Brésil, qui venaient d'être découverts. Et c'est comme ça que la canne à sucre est arrivée et les systèmes esclavagistes sont arrivés au Brésil, puis dans les Caraïbes.
C'est vraiment une lecture de notre monde aujourd'hui, on va y revenir, hein, que de suivre ces routes de l'esclavage. Vous m'avez dit avec justesse, Katarzyna Widrowicz, qu'on était passé un petit peu vite sur d'autres traites, notamment dans l'océan Indien.
Mais le commerce dans l'océan Indien est très ancien. Il date au moins de, les traces archéologiques justement, et puis d'autres ensuite datent du premier, sinon du deuxième millénaire avant notre ère, beaucoup plus ancien que l'arrivée des Portugais, depuis l'Inde, depuis l'Arabie, depuis y compris la Chine. Et on a retrouvé en particulier des esclaves africains en Chine, à Canton au Xe siècle. C'est-à-dire que cette intensification des échanges a été très importante dans tous les produits, dont les esclaves. Et puis, les premiers textes écrits que l'on possède, et c'est pour cela qu'on a fait vraiment démarrer l'étude au 7e siècle, ce serait un accord entre les Arabes d'Égypte qui n'arrivaient pas à conquérir la Nubie, qui n'étaient pas musulmanes, qui refusaient de l'être. Finalement, ils ont fait un accord. Les Égyptiens ont dit, vous allez nous livrer chaque année 200, 300 esclaves. Et comme ça, nous sommes en paix. C'est-à-dire que c'est un contrat entre les deux qui montre, entre parenthèses, que l'esclavage existait déjà en Nubie. Si on leur réclamait des esclaves, c'est qu'il y en avait.
Et que donc, c'est une très vieille histoire, une longue histoire, une sombre histoire, hein, c'est vraiment le cas de le dire. On a parlé de l'or, on a parlé des esclaves, on a parlé du sucre. Tout ça est intimement lié. Parmi les traces archéologiques, vous avez beaucoup travaillé dans la Caraïbe et surtout le continent latino-américain. André Delpech, c'est là quand même qu'intervient l'archéologie de l'esclavage pour retracer des routes multiples, des paradoxes et des histoires plus complexes et plus lointaines qu'on l'imagine.
Oui, l'archéologie, par les faits matériels qu'elle observe, les vestiges laissés dans la terre, évidemment, a l'intérêt parfois de confirmer, mais aussi de contredire les textes, ou en tout cas de les donner des aspects complémentaires ou d'autres angles de vue. Par exemple, pour citer un exemple très précis, alors là, par contre, on n'a aucune idée du statut de l'individu, mais lors de fouilles récentes dans l'est de Cuba, a été fouillé un cimetière amérindien de l'est de Cuba qui date des années 1505-1510. On a pu le dater très précisément parce que les Amérindiens qui sont enterrés là sont enterrés avec des monnaies espagnoles et avec déjà des éléments de troc avec les Espagnols. Et parmi les gens enterrés, il y a un Africain. Donc il y a un Africain enterré dans l'est de Cuba vers 1505-1510. Donc voilà, là c'est une preuve archéologique. Là, on ne peut certainement pas dire quel était le statut de cette personne, mais on voit bien qu'arrivent des Africains dans l'espace caribéen, et puis d'ailleurs certains textes l'attestent très tôt, dès le 16e siècle. Donc ça, c'est un peu l'apport de l'archéologie, c'est tout à coup de nous interroger, de nous interpeller par les vestiges matériels. Les cimetières sont une trace. Après, un peu plus tard, ce qui va nous importer aussi, c'est de voir la vie quotidienne des esclaves, parce que c'est aussi la richesse de l'archéologie que d'étudier le quotidien des individus. Donc tout simplement de fouiller des villages d'esclaves, parce que on sait au final peu de choses sur la vie servile, sur ce qu'ils mangeaient, sur le type d'habitation qu'ils construisaient. Et puis on pourra en parler aussi tout à l'heure, on l'a évoqué, les marrons, les fameux marrons. Là, l'archéologie de l'esclavage est en train de nous donner des idées très intéressantes sur ces fugitifs qui le plus souvent sont absents des textes, si ce n'est que par le fait qu'on sait qu'ils ont fui ou par les procès qui ont eu lieu quand on les a retrouvés. Mais de trouver comment vivaient des esclaves marrons, là l'archéologie, dans quelques cas précis au Brésil, en Jamaïque ou aux États-Unis, nous renseigne de manière très intéressante.
Autour de la question pourquoi et comment faire l'archéologie de l'esclavage, je propose d'écouter Mélissa Lavaux sur RFI d'Haïti au Canada, Generous Bones.
There's something generous in your bones.
Generous Bones, Mélissa Lavaux, entre Montréal et Port-au-Prince, autour de la question pourquoi et comment faire l'archéologie de l'esclavage. Nous sommes en ligne depuis la Martinique avec Thomas Romond. Bonjour Thomas Romond.
Oui, bonjour.
Tout le monde dans ce studio ici, André Delpuech et Catherine Kokrividrovitch vous dit bonjour. Vous êtes archéologue, spécialiste de l'archéologie coloniale. Vous êtes actuellement sur la base INRAP du Lamantin à la Martinique. Alors vous avez beaucoup travaillé sur les cimetières d'esclaves. Vous avez notamment aussi travaillé sur l'île de Tromelin, hein, l'île des esclaves oubliés, et sur plusieurs cimetières en Martinique et en Guadeloupe. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez pu découvrir, Thomas Romond?
Ben écoutez, en particulier, donc d'avoir pu mettre en place cet axe de recherche sur les cimetières d'esclaves, évidemment pas tout seul, en collaboration en particulier avec André Delpuech qui est avec vous, et surtout avec Patrice Courtois aussi du laboratoire d'anthropologie de Bordeaux, et donc au final de découvrir des choses qui étaient un petit peu absentes des textes et des évidences, hein, sur la façon dont on enterre les esclaves, et etc., etc., mais d'apporter un autre point de vue justement à l'histoire de l'esclavage.
En travaillant, en fouillant, en creusant dans ces cimetières d'esclaves qui n'intéressaient personne jusqu'à présent, ou pas grand monde?
C'est pas qu'ils intéressaient personne, mais les archéologues n'avaient pas véritablement mis leur nez dedans, et en fait, en fouillant les cimetières d'esclaves, on a accès d'une part à la population directement, aux esclaves directement, pour la première fois en quelque sorte, en ayant accès à leur squelette et donc à tout ce qui peut être porté par le squelette, que ce soit leur âge, leur sexe, les pathologies, etc., etc. Mais on a aussi accès aux gestes, la façon dont ils sont enterrés, et on peut réfléchir donc à des choses beaucoup, beaucoup plus larges que l'individu.
Je propose d'écouter un petit extrait de la série documentaire Les routes de l'esclavage, épisode 3.
À quelques mètres des baigneurs, des squelettes ont été exhumés. Sous le sable, entre 500 et 1000 sépultures sont encore ensevelies. La plage de Raisin Clair est l'un des 15 cimetières d'esclaves qui ont été fouillés parmi le millier que comptent les Caraïbes. « 89 squelettes ont été mis au jour par les archéologues de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. À voir l'état de leurs os, les archéologues en ont conclu que ces hommes et ces femmes n'avaient pas dépassé l'âge de 30 ans. À leur mort, ils ressemblaient à des vieillards de 75 ans tant leur corps avait été déformé par le travail de la canne. Ces hommes sont les cobayes de l'expérience sucrière, les dommages collatéraux d'une guerre commerciale sans précédent, la guerre du sucre.
74% des esclaves déportés l'ont été à cause du sucre. Pour bien comprendre le commerce des esclaves, il suffit de connaître l'histoire du sucre.
Thomas Romond, vous connaissez bien cette plage de Raisin Clair et ce cimetière d'esclaves?
Oui, bien sûr. D'une part, parce que c'est un cimetière qui est connu de longue date et du fait de la mise au jour de ces ossements à chaque tempête, et aussi pour avoir participé donc à cette opération il y a 2 ans maintenant, où on a eu l'opportunité de fouiller un petit peu moins d'une centaine de sépultures.
Et qu'est-ce que vous y avez découvert, et comment ça a été vécu par la population? C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui que grâce à l'archéologie, on peut remonter les roues de l'esclavage au plus près, au niveau humain, hein, véritablement, au niveau de la vie de l'esclave lui-même. Mais comment c'est perçu par la population? Est-ce que c'est faire œuvre de mémoire? Est-ce que c'est remuer un passé qu'on ne veut pas remuer ou qu'on ne peut pas remuer?
En fait, c'est une problématique très complexe. Là, on a fouillé la bande littorale, en particulier parce qu'elle était menacée et qu'on perdait l'information de ce qui était détruit par l'érosion marine. Donc, c'était important de mener une petite opération sur cette bande. Et c'est vrai que la question pourquoi fouiller ces cimetières se pose. Véritablement, de mon point de vue, on apporte beaucoup, beaucoup d'informations, en particulier sur le statut de ces cimetières qui n'est pas forcément connu, et c'était le cas pour le cimetière de la plage des Raisins Clairs. On parle de cimetière d'esclaves, mais encore faut-il montrer qu'il s'agit bien d'un cimetière d'esclaves, puisqu'il n'apparaît pas dans les archives et on n'en a aucune preuve. Donc c'est l'archéologie en particulier qui va pouvoir apporter ses preuves. Et donc, si on veut avoir cette patrimonialisation du site ou tous les aspects de mémoire qu'on peut mettre en place par rapport à ces sites, il faut bien sûr également avoir de l'information à la base. Et l'information à la base, c'est pour une part les archéologues qui la portent, cette information, mais en même temps détruisent une partie du site et surtout mettre au jour ces vestiges, et donc ces vestiges humains, donc les restes de ces esclaves. Et donc, comme je vous le disais, une problématique très complexe que les archéologues seuls ne peuvent pas discuter seuls.
Et en même temps, on découvre aussi que justement, les esclaves étaient enterrés dans des cimetières dont il n'y a pas de traces, André Delpech, mais qu'ils étaient enterrés. C'est aussi une information.
Oui, comme l'évoquait Thomas, il y a plusieurs aspects hein, derrière ces histoires de cimetières d'esclaves qui sont un peu la partie la plus spectaculaire, parce que c'est vrai qu'un cimetière c'est spectaculaire par rapport à d'autres sites dont on pourra parler tout à l'heure et que Thomas connaît bien, qui sont des villages d'esclaves ou des camps de marrons ou des choses comme ça. Là on est face à l'être humain au travers des squelettes qui restent, et évidemment c'est aussi le travail avec les historiens. Ça va de soi que cette archéologie de l'esclavage, elle doit être menée de concert avec les historiens. Au bout du compte, on est tous des historiens, simplement on travaille pas sur les mêmes matériaux, c'est soit des archives du sol, comme on a pu le dire, au travers des vestiges archéologiques, soit des archives. Et comme le dit Thomas, c'est de voir aussi dans les textes, est-ce qu'il est mention de ce cimetière, quel est le statut de ce cimetière, etc., quelle est l'époque. Et donc, il y a cette dimension scientifique, patrimoniale et historique, archéologique. Mais évidemment, quand on touche à des restes humains et à des cimetières en particulier, il y a une dimension aussi mémorielle, une dimension très sensible. On est face à des êtres humains qui ont été enterrés là. Voilà, donc c'est un peu tout le jeu d'ailleurs important, y compris et surtout avec les populations locales, avec les élus, avec les gens, les habitants alentours, de montrer à la fois que dans certains cas, il y a urgence à sauver ces sites parce qu'ils sont en train d'être détruits par l'érosion ou détruits par les travaux routiers ou d'aménagement du territoire, et d'autre part, de les préserver en même temps comme lieu de mémoire, et c'est un enjeu important. Mais c'est vrai que grâce aux travaux de Thomas Romand, de Patrice Courteau, d'autres chercheurs, on est en train de découvrir des aspects, notamment des rites funéraires de ces populations esclaves très importante. Il y a aussi des champs, mais mes collègues anthropologues en parleraient beaucoup mieux que moi aussi, à partir des recherches en génétique, pour voir aussi les origines possibles de ces populations, les questions de pathologie, les maladies, les questions de l'alimentation. Enfin, on reconstitue des pans de l'histoire de la plantation, souvent finalement peu connus par les textes.
Thomas Romand, avant de vous laisser poursuivre vos fouilles en Martinique, cette fois-ci sont plutôt du côté précolombien, je crois. Qu'est-ce que vous avez retenu, ou qu'est-ce qui vous semble plus important à nous faire passer dans ces fouilles, soit de cimetières, soit dans d'autres fouilles sur la vie quotidienne de ces esclaves dans la Caraïbe.
Ce qui est très très important, c'est que c'est une problématique qui est la fouille les fouilles archéologiques liées à l'histoire de l'esclavage, qui est très 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 récente, et qui a beaucoup de sites qui sont aujourd'hui détruits et qu'il faut qu'on puisse continuer à faire notre travail, en particulier à obtenir les moyens de poursuivre ces recherches.
Espérons qu'on puisse vous y aider.
Excusez-moi, de ces recherches d'un point de vue scientifique, mais aussi pour pouvoir les transmettre vers les populations, pour participer à la construction de cette histoire créole.
Histoire créole à suivre donc grâce à vous. Merci infiniment hein, Thomas Romand d'avoir été en ligne avec nous autour de la question comment retracer ces routes des esclaves, comment grâce à l'archéologie refaire un autre récit plus complet, partagé de cet effroyable trafic. Depuis quelques années, le cinéma aussi s'est emparé de toute cette question de l'esclavage outre-Atlantique, notamment grâce à deux films, en particulier Django Unchained de Quentin Tarantino et Ten Years a Slave, preuve sur grand écran d'un changement de mentalité, bande-annonce remixée par Apolline Verlon-Raison.
Comment t'appelles-tu ?
Django.
Alors tu es exactement l'homme que je veux.
Hé, il est pas à vendre.
Ils ont vendu ma femme.
À qui, je sais pas. Si tu m'aides à les trouver, je te rends ta liberté et je t'emmène sauver ta femme. On va où alors ?
Je suis né libre. J'ai vécu à New York avec ma famille.
Passage avec ta mère.
Avant d'être trahi.
À Solomon.
Enlevé et vendu comme esclave.
T'as retrouvé la santé ?
Je m'appelle Solomon Northup. Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer.
T'es pas un homme libre.
T'es rien de plus qu'un clandestin évadé de Géorgie.
Et le serviteur
qui n'obéit pas à son seigneur,
celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois.
Parole d'évangile.
La condition de vos travailleurs, elle est abjecte.
C'est ma propriété. Vous l'énoncez avec fierté.
J'énonce un fait.
Parle !
Un homme a le droit de disposer de sa propriété. Reviens-y.
Maître.
Donnez-le revenir !
Il n'y a même pas 10 jours, j'étais avec ma famille, chez moi. Et toi, tu me dis de renoncer à tout.
Si tu tiens à la vie, ne fais et ne dis que le strict minimum.
Catherine Kokrividrovitch, que disent ces deux films sur notre mentalité, notre appréhension des routes de l'esclavage? Est-ce que ça nous donne d'autres sources aussi?
Mais ils nous apprennent d'abord, ils nous rappellent plus exactement, ce que savent bien les historiens, c'est que les esclaves ont aussi beaucoup raconté ce qui leur est arrivé. Alors évidemment, sous deux formes, dans les formes anciennes, au moment des procès de l'Inquisition, du 15e, du 16e siècle, ce sont les procès. Ce sont les révoltes aussi, où ils parlent. Ce sont donc les actes de justice. Et puis, surtout, aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous aviez deux parties. Vous aviez le Sud esclavagiste, très esclavagiste, et le Nord qui n'était pas esclavagiste et qui s'est réveillé vers le milieu du XVIIIe siècle pour lutter contre l'esclavage.
Et donc on pouvait faire entendre cette parole-là du côté du Nord.
Entendre cette parole-là, cette parole qui existe depuis le XVIIe siècle. On a des récits d'esclaves depuis le XVIIe siècle, particulièrement intéressants, parce que je dirais ce sont des esclaves de première génération. Donc ils racontent leur rapt en Afrique, ils racontent leur caravane, ils racontent leur entassement dans les baraquons, le voyage terrible sur des bateaux négriers, et puis ce qui leur est arrivé tout aussi terrible aux États-Unis. Alors moi, pour revenir aux deux films, je dois dire, alors le premier était un vrai choc pour les Américains qui n'avaient...
Django Unchained, qui est un film étrange.
Le premier violent. Est une œuvre de fiction, mais nourrie de toutes ces descriptions. Je connais des spectateurs français, plusieurs, qui sont sortis de la salle en
parce
disant
que c'est
trop terrible, je ne peux pas. Mais c'est tout à fait réel. Les récits le racontent. On le sait que ça se passait comme ça. Et ça m'a, je voulais dire, impressionné de voir à quel point des spectateurs, même étrangers en l'occurrence, puisque on raconte des choses qui se passaient aux États-Unis au XIXe siècle,
ne pouvaient pas supporter la vision de ce qui se passait.
Ne pouvaient pas le voir et donc explique d'une certaine façon la négation de la chose. Alors pour le deuxième, 12 années esclaves, c'est le récit très fidèle. Tarantino, c'est un artiste, donc il a une façon
il a fait du cinéma,
il fait du cinéma, mais c'est très important avec un certain regard non dénué d'humour. Enfin, c'est une œuvre. 12 années esclaves, c'est le récit tel que il a été laissé par le personnage qui a existé, qui a été rapté à Washington, qui a été
et qui très a maltraité son histoire.
Qu'il a, au bout des 12 années où il a fini par échapper, a pu écrire son récit et le raconter. Et c'est aussi terrible. Mais disons, c'est beaucoup plus un film américain réaliste, d'une certaine façon, et qui, à mon avis, a moins de portée psychologique que le film de Tarantino.
Pour nous prendre en trip, je vous propose, Catherine Kokrividrovitch et André Delpuech, d'écouter le dernier album de Betty Bonifaci, chanteuse originaire de Montréal. Dans son dernier album, donc Lomax, elle rend un vibrant hommage au chant d'esclaves afro-américain recueilli par John Lomax. Prettiest Train sur RFI.
Prettiest train I ever seen, prettiest train I ever seen, prettiest train I ever seen. Not a can now run down to Jackson, Brighton, New Orleans, New Orleans. Run down. Jackson Bata, New Orleans. Mighty when you marry, marry, oh, your old man. Mighty when you marry.
Train, Betty Bonifaci qui reprend dans son dernier album les chants d'esclaves afro-américains. Quel plus bel hommage pourrait-on leur rendre? Est-ce que justement tout ça fait partie d'une, comment dire, d'une forme de réappropriation collective de cette histoire terrible qui se lit toujours aujourd'hui? On est dans ce monde-là, on est tous les héritiers de ça. Catherine Kokri-Vidrovitch.
Bien sûr, c'est une réappropriation absolument nécessaire de comprendre aussi, pour ce qui est de notre histoire occidentale, l'importance extrême, ne serait-ce que dans le développement de la révolution industrielle et de la modernisation actuelle, de tout ce qu'a apporté la traite des esclaves.
Ça mériterait une autre émission. On va essayer de la faire, votre conclusion, André Delpuech.
Oui, évidemment, c'est fondamental de revisiter cette histoire de manière la plus objective et juste, et derrière les faits, derrière historique, derrière les chiffres, etc., de voir la dimension de la tragédie humaine qu'a été cette histoire, et aussi de nous ramener à la mémoire d'aujourd'hui aussi, où d'autres formes d'esclavage aujourd'hui existent dans le monde,
ça aussi, ça
et pour lesquelles il faut aussi se lutter sans cesse.
Ça mériterait aussi une autre émission. Merci infiniment à tous les deux d'être venus en direct dans notre studio. Merci Catherine Kokri-Vidrovitch. Je ne saurais trop inciter nos auditeurs à regarder cette formidable série documentaire sur la chaîne Arte et sur Franceau à partir du 1er mai. Je rappelle aussi votre ouvrage, Les routes de l'esclavage, aux éditions Albin Michel. André Delpuech, on peut citer l'ouvrage que vous avez dirigé à la découverte, L'archéologie de l'esclavage colonial. Et puis Tromelin, L'île aux esclaves oubliés, chez CNRS Éditions, coécrit par Thomas Romond. Merci à Pauline Verlon-Rey de l'autre côté de la vitre. Merci Marjorie Bertin en coulisses et merci à Raphaël Constant qui nous a aidé à préparer cette émission. Le prochain journal dans une petite minute.